Merci, Monsieur le Président. Nous restons convaincus que nous pourrons adopter une stratégie fonctionnelle concernant la caractérisation et les définitions des salas et que nous pourrons être cohérents par rapport aux exemples de protocoles existants, comme nous l'avons déjà fait valoir précédemment. Si vous consultez les protocoles 1 et 4, on se rend compte que ceux-ci couvrent exclusivement les effets, la conception et les fonctions des systèmes concernés. Le protocole 1 lui-même renvoie aux effets, plus précisément, de ces systèmes d'armes. Nous avons abordé l'idée de la caractérisation des salas dans cet esprit. Il y a, je crois, de nombreuses convergences qui se sont dégagées de nos réunions précédentes. Et je pense que nous pouvons parvenir à un consensus provisoire sur la question de la caractérisation des salas, si c'est notre objectif lors de cette session. Dans les paragraphes dont nous sommes saisis, nous aimerions reprendre à notre compte les observations du délégué américain concernant le segment, sans préjuger de toute autre option de mesure. Cela pourrait être déplacé vers le dernier paragraphe, puisque ce segment ajoute un contexte supplémentaire aux modifications futures éventuelles. S'agissant de savoir s'il faut garder l'adjectif létal ou non dans la caractérisation, notre délégation aurait tendance à suivre les arguments présentés par le CICR et d'autres délégations, à savoir que le droit international humanitaire non seulement couvre les cas où les effets sont létaux par nature, mais aussi d'autres situations, par exemple les souffrances superflues et autres conséquences, et ce même vis-à-vis d'objets. Dans notre document de travail auquel nous avons renvoyé dans notre déclaration liminaire, nous avons proposé une stratégie. Nous proposons de garder les systèmes d'armes létaux autonomes, mais en précisant ce que couvrirait la notion de létalité. Et précisément, dans notre document de travail, nous avançons que l'utilisation du terme létal signifie qu'un système d'armes autonome qui, par sa conception, a la capacité d'appliquer la force létale, est inclus dans cette catégorie. Néanmoins, quelles que soient les conséquences réelles de son utilisation, que la force appliquée provoque la létalité ou non, ce système sera réglementé par le protocole et évidemment le DIH continuera de s'appliquer. Nous pensons donc que si nous décidons de garder l'adjectif létal, il nous faudrait certainement atténuer les préoccupations de certains délégués en apportant des précisions. Concernant la question de l'opérateur humain, je répète ce qui a été dit par l'Irlande et d'autres. Une cible visée sans intervention humaine serait plus pertinente. Parce que parler d'opérateur humain est une stratégie très restrictive et pose aussi une question, à savoir, cette définition sera-t-elle adaptée à l'avenir au fur et à mesure que la technologie continuera d'évoluer? Et si l'on utilise l'idée d'un opérateur humain, cela couvrira tous les cas de participation humaine adoptés au contexte nécessaire pour prendre le contrôle de ces systèmes d'armes. Au paragraphe 3, nous constatons une tentative de préciser très clairement quels sont les systèmes d'armes qui ne seraient pas compris dans cette caractérisation. C'est une stratégie qui s'inscrit en droite ligne des autres protocoles à cette convention. Par exemple, au protocole 3 et 4, des exemples très clairs sont fournis des systèmes d'armes qui ne sont pas dans le champ d'application des 10 protocoles. Nous pouvons fournir de tels exemples et nous restons ouverts à l'idée d'améliorer le texte à l'avenir. Et pour terminer, je me fais l'écho de l'observation faite par la République de Corée concernant la proposition de remplacer les termes améliorer et perfectionner, par modifier, qui serait plus neutre. Il ne s'agirait pas que d'améliorer, mais de modifier pour couvrir les changements qui seraient survenus